Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, l'émission qui parle de livres, aujourd'hui avec Nina et Jeannot autour de la table. Bonjour à vous.
Bonjour Juliana.
Ça va?
Au top.
Tout le monde répond en même temps, donc ça c'est cool. On a tout le monde en même temps à l'antenne, mais on va chacun dire de quoi va-t-on parler.
Eh bien moi je vais y aller, moi je vais parler du livre Foxfire, Confession d'un gang de filles, et je vais vous parler de sa version originale, sa version anglophone.
Et c'est un livre de qui ma chérie?
De Joyce Carol Oates, la fameuse autrice américaine.
Ouais, je vais vous parler de Charlie Watts, l'anti-rockstar. C'est un livre écrit par Paul Sexton, qui est journaliste et présentateur musical.
Pour ma part, je vais parler du livre absolument magnifique d'Antoine Wauters qui est paru aux éditions Gallimard et s'appelle Haute Folie. Il est paru d'ailleurs le 21 août. Pour ne rien vous cacher, c'est le jour de mon anniversaire.
Bien
donc
sûr.
C'est cadeau. Ah, toi aussi? Non.
Ouais,
je découvre un truc là.
Je suis né le 21 août.
Super coïncidence.
Peut-être pas la même
pas
année
la
que
même
moi,
année,
mais enfin, voilà, c'est un très bon cru quand même le 21 août. Nina, avant de commencer cette émission, je pense que nous avons quelque chose de très très important à faire part à nos auditeurs et internautes.
Alors, la semaine dernière, vous avez sans doute été tenu au courant par toutes les infos nationales. Il y a un projet de loi de finances qui a été déposé par le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ce projet de loi de finances y prévoit une baisse de 44% des fonds du FSER. Le FSER, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le fonds, en gros, le financement qui permet à toutes les radios associatives et locales, et donc les radios non lucratives en France, de survivre. On est plus de 750. Aujourd'hui, si le projet de loi de finances y passe en l'état, c'est vraiment un cataclysme pour le secteur des radios associatives. 80% des emplois du secteur sont menacés, selon le syndicat national des radios libres. En ce qui concerne Canal B, ce serait aussi une catastrophe pour nous. Alors nous, on a commencé à travailler en lien avec les autres radios associatives françaises et locales et on se mobilise pour demander à tous et toutes, auditeurs, auditrices, adhérents, adhérentes, bénévoles, mais aussi les élus, d'interpeller les parlementaires et les députés pour empêcher que ce texte ne passe en l'état. Voilà, la date de dépôt pour déposer les amendements, c'est le 25 octobre,
bon.
Ce vendredi. Vendredi passé, c'est le 25 octobre, donc
c'était hier.
Mais une fois ça passé, la bataille ne sera pas finie. Vous pouvez visibiliser ce sujet sur vos réseaux sociaux et puis aussi dans vos cercles personnels. Ce que nous, le message qu'on essaye de faire passer, c'est que les radios associatives, elles font et elles rendent visibles des acteurs et des actrices qui, sinon, n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, que les médias nationaux n'invitent pas. Et c'est aussi un formidable laboratoire d'expression démocratique et d'émancipation individuelle et collective qui risque vraiment de disparaître si les 44% de baisse annoncées sont confirmées.
C'est au son de Rolling Stones que nous allons démarrer vraiment cette émission maintenant autour des livres pour parler, et pour la première fois pour Jeannot, du livre qu'il a choisi. C'est l'histoire du batteur, la biographie officielle du batteur de Rolling Stones. C'est bien ça, Jeannot ?
C'est ça, oui. Charlie Watts, qui est né en 1941, le 2 juin exactement, à Wembley, Malheureusement, il nous a quittés le 24 août 2021. Il est batteur depuis 1963, c'est-à-dire depuis le tout début du groupe. Il a grandi à Islington, un quartier de Londres. Et en 1961, il était déjà batteur d'un groupe qui s'appelait Blues Incorporated, avec Alexis Corner et Ginger Baker, un très grand batteur de ce temps-là. Ensuite, il a intégré les Rolling Stones en 1963, en remplacement de Mike Avery, qui est parti pour les Kings, le groupe des Kings. Bill Wyman, son grand ami, ancien bassiste et mémoire des Rolling Stones, assure qu'il ne lui a jamais connu que Shirley, Anne Shepherd, comme compagne. Et il l'a épousée en 1965. Donc c'est un Rolling Stone assez...
sage.
Sage. C'est le sage de la bande.
Ouais.
Bien que, bizarrement, dans les années 80, il ait eu un petit passage par le tabac, l'alcool et quelques drogues, alors que ses confrères des Rolling Stones, ses copains des Rolling Stones se calmaient pour leur part.
Ouais.
Et ils ont été très étonnés. Il a fait quelques frasques. Et au départ, il est graphiste. Et il avait une particularité, c'est qu'à chaque tournée, et les Rolling Stones allaient dans des chambres d'hôtel, il dessinait les chambres d'hôtel dans lesquelles ils se trouvaient.
Ah oui,
ouais. Pourquoi faire si oui, c'est... demandé.
Parce qu'il était un type un peu maniaque. C'était un grand collectionneur. Il avait beaucoup de manie. Par exemple, quand il arrivait dans une chambre d'hôtel, il fallait un lit double pour qu'il range ses affaires, ses costumes. Il avait beaucoup de costumes.
Un lit double supplémentaire de celui dans lequel il dormait. Ouais. Quoi.
Il passait des heures, des demi-heures, des heures à ranger ses chaussettes. Il avait une collection de chaussettes dans sa valise.
Donc un beau maniaque quand même.
Ouais, hein. Ouais, il était bien atteint quand même.
Mais apparemment, c'était quelqu'un de très, très gentil, très aimé par tous ses copains, ses pairs.
Mais alors, quand c'est une biographie comme ça, c'est lui qui raconte son histoire à quelqu'un ou c'est aussi ces personnes qui vont faire une enquête auprès des gens autour de lui pour bien confirmer ses dires?
Non, oui, c'est Paul Sexton qui a fait le livre parce qu'en fait, Charlie Watts devait co-écrire avec lui, mais... Il nous a quittés malheureusement avant. Donc c'est Paul Sexton qui a fait le livre en prenant beaucoup de témoignages, notamment auprès de beaucoup de Bill Wyman, qui était le bassiste des Rolling Stones originel, qui est parti dans les années 80. Et donc, les autres aussi, Ron Wood, Keith Richards, aimaient beaucoup ce type et ont beaucoup d'anecdotes sur lui, raconte beaucoup d'anecdotes dans le livre.
Ça doit être assez savoureux parce que c'est une autre époque, on découvre des choses peut-être qui aujourd'hui sont absolument pas politiquement correctes, mais tout de même qui alimentent et qui racontent l'histoire du rock dans sa globalité. Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'ils reviennent sur scène aujourd'hui, depuis toutes ces années, Jean-Noël ?
Les Stones, ils n'ont jamais quitté pratiquement parce que justement, Charlie Watts disait qu'il n'aimait pas les tournées. Il préférait être avec sa femme. Ils avaient une maison dans le sud de la France et autrement, ils habitaient dans la campagne anglaise. Sa femme était passionnée de chevaux et donc il avait gagné quand même de l'argent, ce monsieur. Donc, ils avaient un élevage de pur sang arabe et il n'aimait pas les tournées. Par contre, il disait qu'une fois qu'il était en tournée, il adorait ça, mais il n'aimait pas partir. Les Stones n'ont jamais vraiment arrêté. Moi, je les ai vus la dernière fois, c'était en 2022, je crois, à Longchamp.
Mm-hmm.
D'ailleurs, ce jour-là, c'était assez émouvant parce qu'ils ont rendu un hommage à Charlie Watts. Il y avait un écran immense en fond de scène et deux grands écrans sur les côtés. Et l'introduction du concert a été... sur un morceau des Stones, sur des morceaux des Stones, il y avait des images de Charlie Watts. C'était assez émouvant.
Et du coup, est-ce que ce livre, il est écrit un peu pour, j'imagine, pour lui rendre hommage, mais aussi pour montrer à quel point il est peut-être un peu différent des autres Stones ?
Ah oui, c'est ça, ouais. C'est un hommage, mais effectivement, ça insiste beaucoup sur le fait qu'il était différent, moins rockstar, enfin, il n'avait pas les frasques de toutes les rockstars, et c'était surtout un batteur de jazz au départ. Passionné par le jazz, il y a une discographie dans le livre, il a enregistré pas mal de disques de jazz. Il a amené ce jeu de jazz qui fait un peu la particularité des Stones. Les Stones, c'est un groupe d'influence blues au départ, et donc il a amené ce jeu un peu de batterie un peu bizarre qui fait une différence des autres groupes de rock.
Et pour terminer, alors, qu'est-ce que tu as plus aimé dans ce livre ?
Ce que j'ai aimé, c'est le côté, c'est assez émouvant, c'est le côté humain de Charlie Watts, qui est mort à 80 ans, donc qui était un peu le grand-père, l'homme sage. Il y avait d'ailleurs sa fille qui venait sur les tournées et sa petite-fille qui faisait les tournées. Sa fille, c'est Serafina, sa petite-fille, c'est Charlotte. Charlotte l'accompagnait, elle l'a beaucoup aidé à la fin parce qu'il souffrait un peu. Et donc, elle s'occupait de lui et des autres Rolling Stones. Elle était leur mascotte.
Sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus. On va entendre la chronique de Nina.
On va partir dans l'Amérique des années 50, les États-Unis des années 50. On va retrouver un groupe de 5 jeunes femmes blanches, jeunes femmes à peine sorties de l'enfance. C'est presque même encore des enfants, mais elles sont déjà des adolescentes assez matures. C'est presque, on pourrait dire peut-être des white trash. En tout cas, c'est des filles qui viennent de familles de travailleurs et travailleuses, donc pas du tout de familles argentées. Et la famille, d'ailleurs, elle occupe pas une place importante dans leur vie, au contraire, dans ce livre. Ce livre, c'est Foxfire, Confession d'un gang de filles. En anglais, dans la version originale, c'est Foxfire, Confession of a Girls Band, exactement la même chose.
T'as vu cet accent ? Non, mais c'est la classe internationale, là.
Il a été écrit à la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Et en gros, toute l'histoire de ces 5 jeunes femmes, c'est qu'elles se constituent peu à peu en un gang, un réel gang, pour se faire justice elles-mêmes, dans une Amérique qui ne les considère pas, de par leur milieu social, et qui ne les considère pas aussi parce que ce sont des jeunes femmes, des jeunes et des femmes, et dont finalement les hommes et les vieux hommes se servent. Donc évidemment, on parle en fait d'agression sexuelle à ce moment-là. Et donc voilà, elles forment un groupe, les Foxfire, qui devient un groupe constitué de rituels, un groupe qui est assez violent, radical. Et pendant toute l'épopée en fait qu'elles nous font vivre, elles se font justice elles-mêmes. Donc un tel professeur a touché les seins d'une de leurs amies. Elles vont aller taguer des choses sur sa voiture et il va devoir se retirer du collège. Un tel beau-père dans une famille fait la même chose de manière, enfin, commet des délits sexuels, des délits d'agression sexuelle sur une de leurs amies. C'est pareil. C'est un peu une sorte d'épopée assez violente, comme à la Thelma et Louise, genre une fuite en avant qui s'arrête pas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est justement la radicalité de ces jeunes femmes. Et surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est que quand j'ai acheté ce livre, je ne l'ai pas acheté parce que c'était un livre qui se disait féministe. C'est un livre donc, qui date d'avant des années 2000. Il est hyper puissant, mais il n'a pas cette étiquette. Et Joyce Carol Oates, elle ne s'est pas donné cette étiquette de « c'est un livre féministe ». C'est juste un film qui l'est intrinsèquement, un livre qui l'est intrinsèquement.
J'aime bien le lapsus.
Qui l'est par lui-même, mais qui ne se donne pas cette étiquette, qui ne veut pas être représentatif d'un quelconque mouvement. Et je trouve que ça en fait du coup quelque chose d'encore plus puissant, parce qu'elle n'a pas besoin de le dire. C'est juste dans la façon d'écrire, dans ce qu'elle raconte aussi, qu'on le comprend.
Mais pourquoi est-ce que tu mets en avant le fait qu'elle ait été publiée dans les années 2000 pour nous expliquer cet état d'intentionnel ?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Moi, je suis féministe et je lis beaucoup de littérature féministe ou alors qui traite de ces sujets-là. Et c'est vrai que peut-être qu'on va écrire sur un sujet parce qu'on a envie de traiter de ce sujet-là, parce qu'on est engagé. Mais disons que mettre une étiquette en amont sur sa production culturelle et le faire parce qu'on a besoin de parler de féminisme et parce que on veut faire quelque chose de féministe, je trouve que ça en est moins fort et moins beau qu'un livre qui l'est par essence, sans forcément le revendiquer. Je ne suis pas du tout dans le discours de personnes dédicace à ma mère qui fait ça, qui ne veut pas qu'on se revendique féministe parce que pour raison X ou Y, je pense que c'est pas un débat intéressant. Mais ce livre-là, en l'occurrence, il pourrait aujourd'hui être vendu en tête de gondole comme le livre féministe de l'année. À l'époque, je pense pas que ça a été le cas et que c'était plutôt un portrait de ces jeunes femmes dans une Amérique des années 50, donc qui est encore très conservatrice et une époque aussi, je pense, dans laquelle il est dur aujourd'hui de se projeter. En tout cas, moi, avec mes imaginaires à moi, c'est dur de me projeter dans qu'est-ce que c'est que de vivre dans les années 50 en étant une fille blanche des quartiers un peu pauvres dans une ville imaginaire d'ailleurs, urbaine imaginaire, dans ce livre-là.
Je lirai avec plaisir ce livre. Carol Hotz est connue comme une très grande écrivaine.
Ouais, c'est chouette de le présenter comme ça.
Et si tu peux, je te conseille de lire en anglais. Moi ça a été mon cas. Alors ce qui est assez marrant, c'est que ce livre je l'ai acheté il y a très longtemps quand j'étais au lycée et je pense que j'avais pas le niveau d'anglais encore nécessaire, donc j'ai vraiment essayé de le lire. Je pense que je l'ai ouvert vraiment 25 fois sans réussir à rentrer dedans et je me le trimballais partout et je me disais mais quand est-ce que je vais réussir à lire, parce que je savais que c'était un super livre mais j'arrivais pas. Finalement un jour j'ai réussi et la clé en fait pour me plonger dedans, parce qu'il y a quand même un niveau d'anglais qui est assez important à avoir, c'est qu'il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller dans cette langue qui est une langue vraiment orale qu'elle a retranscrite, mais une langue orale des années 50 avec plein d'abréviations, des virgules, des mots coupés, mais c'est vraiment une langue flamboyante. Il y a je pense des mots d'argot et il faut vraiment se laisser aller, même si on comprend pas tous les mots, tout le vocabulaire. On rentre un peu dans dans le quotidien de ces jeunes filles qui galèrent, qui vont à la fin habiter ensemble en coloc alors qu'elles ont même pas 16 ans et qu'elles ont pas de taf, pas d'argent, commencent à être vraiment marginales. Et voilà, cette langue elle est flamboyante, elle est puissante, elle se crée aussi de propres références à elle-même, de par leurs expériences et de par leurs rituels. Donc il y a aussi quelque chose qui se crée autour de leur groupe.
Tu as été regarder un petit peu la traduction en français pour savoir si justement il y avait des choses qu'on perd ou qu'on gagne dans une traduction?
Pas du tout, mais je pense qu'on en perd.
Ah.
C'est sûr, après peut-être que la traduction a été excellente et que finalement elle apporte aussi quelque chose. Mais celui-là, je recommanderais vraiment de le lire en anglais.
Softly and gently.
Alors là, je ne vous cache pas que je trouve ce morceau juste génialissime. Rouperou, qui en plus, je suis trop contente, va jouer à l'étage pour les transmusicales le jeudi des trans. Je crois que vous savez où est-ce que je vais être à ce moment-là. Le jeudi des trans, aujourd'hui, je vais parler évidemment d'un livre coup de cœur, mais vraiment coup de cœur. Alors là, j'adore l'écriture déjà. Cet homme est un poète, romancier, Antoine Wauters, il est belge. Il a publié chez Gallimard, donc au mois d'août 2025, le roman « Haute folie ». « Haute folie », c'est l'histoire de Joseph. Cet homme, il est né dans un moment très particulier. Sa famille a vraiment vécu des drames. Et lui, il est né le jour où il y a eu l'incendie de la ferme « Haute folie ». Et à partir de ce moment-là, son histoire, elle va devenir une histoire absolument incroyable, dans le sens où l'auteur se pose la question comment échapper de sa destinée. Est-ce qu'on va toujours être accompagné par les réminiscences, l'historicité, des choses qui se passent dans notre famille? Je m'explique, c'est qu'après cet épisode, bien sûr, de l'incendie de Haute Folie, les parents finissent par disparaître également, Blanche et Gaspard, et il est adopté par son oncle et sa tante, qui portent beaucoup d'amour envers ce garçon. Mais, comme dit l'auteur, un orphelin n'est jamais totalement complet quand il est jeté comme ça dans le monde. Il y a quelque chose qui lui manque et qui va probablement lui manquer toute sa vie. Il ne sait pas très bien, en fait, Joseph, qu'est-ce qu'il lui manque. Donc, il mène son petit bonhomme de chemin et il va devenir enseignant. Il va même avoir un amour dans sa vie. Mais à un moment donné, il va vraiment gratter et découvrir son histoire, découvrir l'histoire tragique de sa famille et la vérité sur ses parents. Ce qui va vraiment les scinder en deux, il va lui projeter dans une existence dans laquelle il va tenter de se sauver lui-même en devenant un homme qui va vivre dans une grotte, qui va écrire énormément et qui va continuer d'envoûter peut-être certaines personnes qu'il va croiser, de s'envoûter lui-même avec son rapport à la nature et de se poser la question sur de comment faire alors pour s'en sortir ou pas d'ailleurs, ou pas accepter sa condition de vie telle qu'elle s'impose à nous. Et à un moment donné, bien sûr, l'histoire elle va devenir lumineuse aussi, hein, parce que je vous parle de quelque chose qui a l'air très grave. Mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'au-delà de toute cette gravité et de toute cette tragédie, il y a quelque chose qui ressort et qui nous donne un espoir. Et d'ailleurs, le livre, il est raconté à des voix différentes, on va dire ça comme ça. On ne sait pas très bien, on ne sait pas d'ailleurs la temporalité, on ne connaît pas vraiment la géographie. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui nous laisse planer. Et ce que j'adore dans l'écriture d'Antoine Wauters, c'est justement que tu te laisses, tu es d'accord de te laisser aller, en fait, à une sorte de voyage avec lui. Il t'amène dans un endroit où il faut complètement se lâcher pour laisser cette histoire te pénétrer d'une certaine manière et t'amener dans des réflexions de ta propre nature ou de la nature autour de toi. Il y a question beaucoup de nature, mais des questions aussi de nature humaine.
Et alors, c'est quoi la conclusion de... Est-ce qu'il a une réponse à est-ce que ces traumas nous suivent toute notre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on vive mieux avec?
Est-ce qu'il faut une réponse?
Et c'est une réponse facile.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il a un parti pris là-dessus, bien sûr, mais je pense que nous, en tant que lecteurs, on peut laisser ouverte cette porte et laisser le temps pour pouvoir se formaliser dans la tête une quelconque opinion sur cela. Personnellement, en tant que lectrice, je pense que oui, on porte effectivement des choses qui viennent de très loin de notre famille, dans nos gènes peut-être, dans des situations qui se reproduisent alors que peut-être on aurait pu bien s'en passer. Mais je pense aussi qu'on est capable de casser la chaîne. En fait, tout est une question de conscience à mon sens. C'est ce que aussi j'ai perçu dans ce livre. Ouais, bon, je crois que j'ai fait mon taf parce que j'ai cloué le bec de tout le monde.
Non, j'ai une question encore. On a le time encore?
Ouais, bien sûr.
Est-ce que ça fait du coup partie de ces livres qui chamboulent, que tu as lu en pensant à des choses sur ta vie perso? Je pense à Delphine de Vigan, moi, qui a écrit un livre qui m'a bouleversée. Ça m'a vraiment changée pour des mois et des mois et ça m'a
C'était
changée.
C'était lequel d'ailleurs? C'est de lequel, d'ailleurs?
C'est celui qui a un titre de Bachung là-dedans, je me souviens plus, viendra le temps de la nuit, entre
guillemets. Ouais, 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 je vois, je l'ai pas lu.
Ouais, peut-être, en tout cas, celui qui a été le plus connu à ce moment-là. Est-ce que ça a été un livre comme ça pour toi ou
pour
pas?
Pour moi
ouais.
Ah bah complètement. Ah oui,
celui-là, La Haute Folie.
Absolument. Okay. Complètement.
On en sort différent quand même.
Bah, en fait, je ne sais pas si... Enfin, moi, je te parle, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Je ne veux pas dire que je suis sortie différente, mais je suis très concernée par cette histoire, très intimement concernée par cette histoire. Elle m'a bouleversée. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je l'ai lu à plusieurs reprises, le livre, parce que tu as toute une partie en italique et tu as aussi une partie écrite pour faire la différence, en fait, un petit peu sur la narration. Et je l'ai lu que le côté italique, après que le côté...
Ah oui, d'accord. Oui, après, toi aussi, tu es devenue maniaque.
Ouais,
comme,
je suis devenue maniaque. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'appréhender cette histoire, et j'étais tellement bouleversée par la première lecture d'emblée qu'après je suis revenue pour tenter d'autres choses et voir vraiment, j'avais l'impression de sortir d'un songe. Mais personnellement, oui, ça m'a beaucoup bousculée, et j'ai eu envie non seulement de vous en parler, mais de vous encourager à lire, parce que même si je pense l'effet escompté n'est pas le même chez vous, rien que la beauté de l'écriture d'Antoine Wauters, qui n'a plus rien à prouver, c'est un garçon qui a reçu pas mal de prix, qui fait beaucoup de bruit dans le monde littéraire, et ça compte, c'est pas mal du tout.
Ok, Haute Folie sur la liste.
Eh oui, Haute Folie sur votre liste à la lecture, absolument.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
Bon, on termine avec la voix d'Angelo, hein, parce qu'il a juste nous quitté.
Parce que pourquoi pas.
Pourquoi pas, en fait, je l'adore. Hein,
j'ai écouté ça, j'ai appris sa mort dans la semaine dernière, j'ai écouté ça directement. J'ai écouté ça
C'est marrant.
J'ai réécouté un best-of.
Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu un moment où j'ai Angelo et il était dans ma playlist. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Dois-je vraiment vous dire, parce que vous voyez mon sourire là, mais les auditeurs ne savent pas, que j'étais vraiment très contente de partager ce moment avec vous.
Moi aussi.
Merci. Vous avez appris le métier de...
Tu reviendras alors, Jono. Merci. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Allez, bisous. Bye. Everybody wants to know what's going down. Babe, I thought I've seen this before. Maybe at the liquor store. Maybe at the helpful stand. They don't know that I'm your man. Oh.